Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. L'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Un nouveau refus d'obtempérer. Un policier gravement blessé dans le Nord hier soir. Il a été percuté par le véhicule qui tentait d'échapper à un contrôle douanier. Après l'affaire Quatennens, la NUP rattrapée par l'affaire Bayou chez Europe Écologie Les Verts cette fois. Fer de lance de la lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà des parties embarrassées, on y revient en longueur à 12h40. Les assureurs s'engagent pour le pouvoir d'achat des Français. Le montant des primes d'assurance ne devrait pas augmenter au-delà de l'inflation. Kylian Mbappé fait plier la Fédé. La FFF va revoir au plus vite la convention inhérente au droit à l'image. Une vague de plus dans une période décidément très agitée pour le foot français. On y revient dans une dizaine de minutes.
RTL, toujours plus proche de vous à la fin du journal. RTL Midi, un jour chez vous en France.
C'est la plus petite ville au monde à avoir ce type de métro automatique. Aujourd'hui, on voyagera à Rennes où la ligne B vient d'ouvrir. À 12h20, RTL Midi, votre vie, on s'arrête sur les applications qui vous aident à faire vos courses et qui aident aussi les industriels à changer leurs recettes. Juste avant 13h, LVT Midi, avec l'un des auteurs français les plus lus depuis plus de 10 ans, Guillaume Musso sort son 20e roman. Il s'est confié à Bernard Lehu. La question du jour sur RTL.fr. À 2 mois du Mondial au Qatar, êtes-vous inquiet pour l'équipe de France de football?
Autant de sujets évidemment que vous pourrez débattre à partir de 13h avec les auditeurs. J'ajoute cette information, plus de 85% des automobilistes, roulent seuls dans leur voiture le matin. Donc si vous faites partie de ces automobilistes, eh bien vous pourrez nous appeler au 3210.
Avant ça, un mot du temps avec vous, Peggy Broche. Cet après-midi, vaut mieux être au sud. Hein.
Oui, parce que c'est ensoleillé au sud et c'est nuageux mais sec au nord.
Merci Peggy, météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
Un policier grièvement blessé hier soir près de Valenciennes dans le Nord, touché aux jambes et au dos. Il a été violemment percuté par la voiture d'un homme qui tentait d'échapper à un contrôle des douaniers. Franck Hanson, un refus d'obtempérer de plus qui désespère ses collègues.
Oui, il a vraiment cru qu'il allait y passer, m'a confié un policier qui a eu en ligne ce fonctionnaire ce matin sur son lit d'hôpital. Hier soir, un automobiliste suspecté de trafic de stupéfiants était donc pris en chasse vers Maubeuge par les douanes et un équipage de la BAC. Quand il arrive face à une autre patrouille de police déployée pour l'intercepter, il ne ralentit même pas, déplore Bruno Noël du syndicat policier Alliance dans le Nord.
L'individu est arrivé à vive allure hein, puisque les collègues de la BAC ont estimé la vitesse à 100-120 km/h. Extrêmement connu des services de police pour trafic de stupes et aussi pour de nombreux refus d'obtempérer. Donc sans ralentir, sans essayer d'éviter le collègue, il l'a percuté comme une quille en fait. Il est arrivé, il l'a percuté et le collègue a fait l'étoile. Il est tombé sur le dos, donc il a le coccyx cassé, il a des côtes cassées. On est complètement révolté.
Ce chauffard âgé de 29 ans a été rapidement interpellé et placé en garde à vue, également blessé et hospitalisé. Il transportait plusieurs quantités de drogue. Il pourrait être poursuivi pour tentative d'homicide volontaire. C'est la police judiciaire de Lille qui est chargée des investigations. Aucun coup de feu n'a été échangé lors de cette opération.
Franck Hanson, correspondant de RTL dans le Nord.
L'affaire Patrick Poivre d'Arvor, à nouveau à la une de Libération ce mardi. Le quotidien révèle que de nouvelles plaintes ont été déposées contre l'ancien présentateur du 20h.
Deux plaintes et un signalement qui viennent s'ajouter aux presque 20 plaintes déjà déposées, Guillaume Chiez. Et cela même si les faits dénoncés semblent tomber sous le coup de la prescription.
Oui, mais ce n'est pas un problème pour la justice hein, qui tente d'être le plus exhaustif possible sur ces faits. Et c'est pour cela qu'une enquête est toujours ouverte. Libération publie donc ce matin le témoignage de 3 nouvelles femmes, 3 écrivaines. La première a 44 ans. Elle a déposé plainte il y a 8 jours pour une agression sexuelle qui remonte à 2003. La deuxième plaignante parle, elle, de viol commis en 1985, alors qu'elle était âgée de 16 ans. La troisième femme interrogée par nos confrères veut conserver l'anonymat. Elle aussi parle d'un viol qui aurait eu lieu dans le bureau de l'animateur. Ce qui ressort de tous ces témoignages, comme des précédents, c'est tout un système de prédation organisé par PPDA et une même emprise sur ces jeunes femmes. Elle dénonce également une complaisance du monde de l'édition à l'égard de l'ancienne star du JT de TF1. Patrick Poivre d'Arvor a de son côté été auditionné en juillet dernier et selon son avocate, il nie les faits qui lui sont reprochés.
Guillaume Chies du service police-justice d'RTL, merci. Des comportements de nature à briser la santé morale des femmes. Voilà comment Sandrine Rousseau est revenue sur les accusations qui visent Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, accusation portée par l'une de ses ex-compagnes que Sandrine Rousseau dit avoir longtemps reçue. Julien Bayou, lui, était revenu sur cette affaire début juillet. Il expliquait qu'il ne s'agissait pas de violences sexistes ou sexuelles, simplement d'une histoire qui se termine, je cite, dans la souffrance.
Tout à fait autre chose à présent. Après les banquiers, c'est aux assureurs que le gouvernement demande de faire des efforts aujourd'hui pour préserver le pouvoir d'achat des Français.
Les assureurs, oui, qui étaient reçus à Bercy ce matin. Et ils se sont engagés, Armelle Lévy, à contenir les prix de leurs primes d'assurance.
Oui, Bruno Le Maire a obtenu une hausse contenue des tarifs pour 2022 et 2023, mais une hausse quand même. Pas plus que l'inflation, qui s'établit à 5-6%, mais qui pourra encore augmenter. Attention, c'est une moyenne, car les conducteurs qui ont obtenu beaucoup d'accidents verront leur assurance auto augmenter davantage. En revanche, un geste est fait en faveur des jeunes demandeurs d'emploi. Ils auront 100 euros de remise sur leur assurance auto. En contrepartie, les assureurs ont obtenu la fin de la vignette verte en papier à coller sur le pare-brise au profit des vignettes dématérialisées qui leur coûtera moins cher.
Armelle Lévy pour RTL. 250 millions d'euros pour le plan vélo l'année prochaine. C'est l'annonce de Matignon qui présente actuellement son plan. Des enfants pédalent d'ailleurs dans la cour de la Première Ministre. On y revient dans le journal de midi et demi.
C'est la belle histoire du jour dans le Finistère. La baleine qui s'était échouée hier a pu reprendre la mer.
Oui, le Rorqual a pu profiter du bassin et du chenal creusé dans le sable de la plage de Ploéven pour repartir. C'était le troisième cétacé à s'échouer en 3 semaines dans le Finistère. Les deux premiers sont morts. C'est donc une victoire inespérée, comme le raconte Lamia Essemlali, porte-parole de Sea Shepherd France.
On était de nuit, sans moyen de tractage motorisé. Et ce qui a changé la donne, c'est aussi l'envie de vivre de ce baleineau, qui avait une énergie qu'on ne soupçonnait pas. Certains le disaient mourant et que ça parlait d'euthanasie. C'est un animal qui avait envie de vivre et qui nous a aidés à l'aider. Et ça, ça a été le moment le plus magique et la plus belle récompense pour nous. Il est encore dans la baie de Douarnenez. Il est encore très près des plages. On s'inquiète d'un possible échouage de nouveau. En fait, il est vraiment dans des eaux très peu profondes.
Lamia Essemlali, porte-parole de Sea Shepherd France, des propos recueillis pour RTL par Nicolas Bobby. La météo.
Et il fait froid. Mais non, mais c'est vrai, il fait froid.
Oui, c'est vrai que le matin,
septembre,
il fait
très frais.
Et au nord, ça reste frais l'après-midi. En plus, vous avez raison, Pascal. On est en dessous des normales. Il faut être au sud, en fait, c'est vrai. 17 à Nancy, jusqu'à 29 à Perpignan, 18 à Lille, 19 à Paris, 21 à Brest et Lyon, 25 à Bordeaux, 26 à Marseille et 27 à Toulouse. Bon, non seulement en plus, il fait froid, et en plus, au nord, c'est nuageux.
On n'est plus habitué.
Bah oui, mais il va falloir s'habituer quand même. En même temps, c'est normal.
Pareil, hein.
On est en septembre, donc c'est logique. C'est vrai que c'est plus nuageux au nord de la Loire, entre la Normandie, l'Île-de-France, l'Alsace. Cet après-midi, peut-être quelques éclaircies, mais les nuages resteront nombreux, quoi qu'il en soit. Quelques gouttes possibles sur les collines normandes, vers les Ardennes. Et le ciel se voile légèrement entre la Bretagne et la Vendée, mais ça reste lumineux. Mais partout ailleurs, c'est un beau soleil, avec un peu de mistral près de la Méditerranée. Peut-être encore quelques gouttes sur l'est de la Corse, mais sinon, c'est du beau temps partout.
Merci Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
Effectivement, RTL Midi, un jour chez vous, chaque jour, l'info au plus près de chez vous.
Avec nos correspondants qui quadrillent la France, et aujourd'hui, direction Rennes, où l'on retrouve Mathieu Lopineau. Bonjour Mathieu.
Bonjour Céline, bonjour Pascal, bonjour à tous.
Bonjour.
Vous êtes donc dans la capitale bretonne qui inaugure aujourd'hui sa deuxième ligne de métro, on l'entend.
Oui, effectivement. Là, je me trouve donc à la station des Gailleuls, en centre-ville. Station flambant neuve, moderne, avec du béton et du bois partout. Et la première rame a effectivement donc roulé ce matin. Départ fixe à 5h15 précise de la station Saint-Jacques-Guettet, accueillie donc par les applaudissements des usagers, ravis de pouvoir donc enfin emprunter cette nouvelle ligne de métro.
Bah, les rames, elles sont plus vastes, c'est moderne, c'est agréable à regarder quand même.
Comme je suis cycliste, ça me fait plaisir de voir qu'il y aura peut-être un peu moins de voitures.
Parce que c'est
très bien assis, c'est clair. Ce que j'apprécie surtout, c'est la luminosité. On a des vitres partout.
Là, c'est un jour historique de voir l'inauguration du métro. On attend ça depuis 8 ans. Je vais pouvoir le dire à mes petits-enfants. Ouais.
Un moyen de déplacement plus rapide, plus simple. Ça va un peu nous changer la vie quand même.
Rennes, 450 000 habitants, 11e ville de France, 2e plus petite ville au monde à avoir donc 2 lignes de métro. Et on nous dit que ça va donc permettre de supprimer 50 000 véhicules par jour en centre-ville. La maire de Rennes, Nathalie Appéré, était très fière ce matin d'inaugurer donc son nouveau métro.
Ouais, c'est vraiment de l'émotion. On le sait, il y avait beaucoup d'impatience, beaucoup d'attente. C'est pour le territoire un moment qu'on peut qualifier d'historique.
14 km de ligne ici donc à Rennes, 21 minutes pour rallier les 15 stations. Un métro toutes les 2 minutes 15 en heure de pointe et on compte 100 000 voyageurs par jour attendus.
Et pour cette inauguration, Mathieu, vous avez croisé des fanatiques du métro.
Ouais, effectivement. Céline Pascal, est-ce que vous savez ce qu'est un nésithériophile ?
J'imagine c'est un amoureux du métro si vous me posez la question.
Presque, presque. Écoutez la réponse de Pierre, Guillaume et de Benoît que j'ai pu croiser ce matin.
Voilà, donc nous sommes des hésithériophiles, qui vient du grec hésithérion, qui veut dire billet ou reçu, et du suffixe phil, qui veut dire collectionne. Donc on collectionne les billets de transport, les tickets de transport en général.
Là, c'était indispensable pour vous d'être là aujourd'hui pour pouvoir avoir le dernier ticket.
Le reçu numéro 4.
Ah oui, vous avez le quatrième billet du nouveau métro de Rennes.
J'ai le deuxième, moi.
D'accord, d'accord. Ah, vous êtes passé à côté du premier.
Ah, il y a quelqu'un qui est passé avant moi.
Pas de chance. Tout le monde a le sourire à vous entendre, Mathieu, mais en coulisses, les travaux n'ont pas été un long fleuve tranquille. Hein.
Ah, effectivement, un budget d'1,3 milliard d'euros, le plus gros chantier de ces dernières années en France. 10 ans de travaux, dont 2 ans de retard. Et c'est ça qui a passablement agacé la métropole. Mathieu Theuriel, vice-président au transport, et il espère récupérer entre 30 à 40 millions d'euros de pénalités. Une somme effectivement inscrite dans le contrat en cas de retard.
Il y a des aléas dans ce type de chantier. On a bien l'intention, encore une fois, d'aller au bout du respect du contrat qu'on a signé avec l'entreprise.
Mais vous êtes ferme là-dessus.
Oui, on est ferme là-dessus. Ouais.
Et de son côté, Siemens, le constructeur, reconnaît effectivement ses retards, c'est indéniable, mais va se mettre autour de la table des négociations pour perdre le moins d'argent possible pour que son chantier reste rentable. Écoutez, Laurent Bouillet, c'est le patron de Siemens France.
Je dirais beaucoup d'humilité, beaucoup de détermination pendant ces périodes d'essai qui ont été plus longues que prévues. Viendra le moment de s'asseoir autour de la table et de discuter de la suite purement contractuelle. Et j'espère qu'effectivement nous serons dans une discussion apaisée, constructive, comme le partenariat que l'on a eu depuis le début avec sur ce projet. Et je pense que cet état d'esprit perdurera.
Et le métro Rennais qui reste gratuit toute la semaine. Ensuite, ce sera donc 1,50 € par ticket. Et Rennes qui sera par la suite une vitrine au monde puisque ce même métro sera construit à Francfort, à Bangkok en 2023 et 2026.
Bon, c'est plus simple d'aller le tester à Rennes. Merci beaucoup Mathieu Lepineau.
Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Dans un instant, la question des droits de l'image de la Fédération française de football. Et effectivement, il faut comprendre dans ces cas-là que les joueurs cèdent leurs droits d'image à la Fédé lorsqu'ils jouent avec l'équipe de France. Ils ne sont pas forcément d'accord sur les sponsors. A tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Et voilà Kylian Mbappé enfiler son gilet jaune de milliardaire. L'argent, nerf de la guerre, mais pas seulement. Dans une négociation que l'entourage du joueur souhaite revoir. Question d'éthique, avertissait son avocate en mars dernier.
Christian Olivier, que vous avez pu entendre ce matin sur RTL, réagir à la nouvelle affaire qui embarrasse la Fédération française de football à moins de 2 mois de la Coupe du Monde au Qatar. Le sujet du droit à l'image des joueurs de l'équipe de France de foot au cœur des discussions. Des mois déjà que Kylian Mbappé et son clan réclamaient une modification de la convention concernant ce sujet. Alors hier, l'attaquant du PSG a annoncé qu'il comptait boycotter la séance photo prévue aujourd'hui. Quelques heures plus tard, la Fédé a plié. Elle va revoir dans les plus brefs délais cette convention inhérente au droit à l'image, alors que l'idée au départ c'était de régler ça après le mondial. Bonjour Philippe Sanfourche.
Bonjour.
Vous êtes le chef de la rubrique foot à RTL. D'abord, comment expliquer ce revirement, cette décision de la Fédé?
La fédération, faut bien le dire, n'a pas eu d'autre choix que de manger son chapeau. Hein. Finalement, le bras de fer était forcément perdu. Si la star des Bleus ne participait pas à ce dernier grand raout marketing avant le mondial, il faut savoir que toutes les opérations qu'on va voir pendant la Coupe du Monde se font aujourd'hui. Tous les visuels que vous apercevrez pendant cette période se font aujourd'hui. Donc ça aurait été une catastrophe que Kylian Mbappé n'y participe pas, sachant qu'il y a déjà une batterie de blessés. Tous les joueurs qui ont un gros potentiel marketing, comme Paul Pogba, comme Hugo Lloris, le capitaine qui n'est pas là, Karim Benzema qui n'est pas là, enfin un nombre incalculable de joueurs sont déjà absents. Si en plus Kylian Mbappé n'avait pas participé à cette opération, c'était un fiasco total pour les sponsors. Donc la fédération, dans l'urgence, n'a pas eu d'autre choix que de plier et de s'engager donc à céder sur tout ce que demande Kylian Mbappé et de faire une nouvelle convention qui ira.
On a du mal mal à comprendre les motivations. Christian Olivier disait le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mbappé, il dit c'est pas l'argent. Il dit qu'il ne veut pas associer son nom à une marque, par exemple, qui ne correspond pas à son éthique. Et moi-même, j'ai du mal à comprendre la motivation, la réelle motivation. C'est laquelle ?
Il y a beaucoup de choses dans ce dossier. Il y a effectivement le dossier éthique. Alors ça, c'est lorsque...
Il ne faut pas qu'il aille jouer au Qatar, alors. Si vraiment il veut être accord sur son éthique, il ne faut peut-être pas que Mbappé joue au Qatar la prochaine Coupe du Monde. Vous voyez ce que je veux dire ?
On va dire que, pour schématiser, on va dire, par exemple, il y a un sponsor qu'on peut citer, qui est KFC. C'est donc une marque de fast-food qui véhicule un type de nutrition que Kylian Mbappé ne cautionne pas complètement, puisque lui, il a des sponsors personnels qui sont liés à la nutrition pour les enfants, notamment, et le bien manger. Donc, il estime qu'à titre personnel, il ne veut pas être associé à cette marque. Il y a deux choses, il y a deux volets. En fait, il y a le volet collectif, quand vous voyez les joueurs, par exemple, qui sont au nombre de 5, là, ça ne l'enchante pas, mais il accepte, parce qu'il estime que la fédération a libre choix de prendre les partenaires qu'elle souhaite. Donc, il est, on va dire, noyé dans un groupe de joueurs. Ça ne lui pose pas de problème en soi, si ce n'est pas trop. Mais en revanche, associer son image à titre personnel à cette marque, là, ça lui pose un problème. D'autant qu'il y a certaines marques, il faut le savoir, qui ont essuyé des refus à titre personnel pour des contrats à l'année avec Kylian Mbappé et qui sont passés par la porte de derrière, par la fédération, pour avoir un contrat avec la fédération et bénéficier de l'image de Kylian Mbappé et en plus à moindre frais, puisque la fédération vend ses partenariats beaucoup moins cher que ce que Kylian Mbappé fait payer à ses sponsors personnels.
Et puisque vous parlez de l'argent, on rappelle que l'argent que gagne Kylian Mbappé avec ce droit à l'image en équipe de France, il le reverse à des associations.
Oui, ça, tous les joueurs ne sont pas obligés de le faire, mais lui le fait. C'est aussi pour pouvoir asseoir sa démarche et démontrer qu'il n'en fait pas une question d'argent, mais que c'est bien sur la philosophie des choses qu'il veut que ça évolue.
Justement, cette démarche de Kylian Mbappé, elle est très personnelle, ou alors il y a d'autres cadres, d'autres joueurs de l'équipe de France qui la suivent.
Alors au départ, elle a pu paraître un peu personnelle. Ce que les joueurs reconnaissent volontiers, c'est qu'effectivement, ils voient bien factuellement que quand les sponsors débarquent, par exemple, il y en a 14 aujourd'hui qui arrivent pour faire les campagnes, ils veulent tous Kylian Mbappé. Donc au final, ils se retrouvent phagocytés pendant toute la journée à faire l'intégralité des partenaires, alors que d'autres joueurs qui sont des membres effectifs de l'équipe de France ne sont absolument pas sollicités. Donc ce distinguo-là, tout le monde l'avait perçu et là-dessus, ils le suivent. Ensuite, c'est vrai qu'il y a eu le sentiment, peut-être parce que souvent il est un peu franc-tireur, notre ami Kylian Mbappé, mais il y a aussi l'intérêt des autres joueurs qui comprennent bien que c'est à terme, pour eux aussi, ça peut être bénéfique.
Voilà un sujet qui fera réagir les auditeurs. Est-ce que c'est un caprice ou est-ce qu'au contraire, il y a une motivation qui justifie cette action de Kylian Mbappé ? Vous pourrez intervenir au 32-10 dans un instant, RTL Midi. Votre vie, on en parle. Le smartphone, figurez-vous, il peut influencer les industriels de l'alimentation qui peuvent modifier les recettes de leurs produits en fonction de vos applications sur leur smartphone. A tout de suite avec Virginie Garin.
Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 32-10.
50 centimes la minute.
RTL Midi. Votre vie.
Votre vie. Car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui,
je sors l'application.
On scanne le code barre.
Je scanne le code barre en mettant bien ma 4G. Et donc, j'ai un score qui apparaît, 59 sur 100 pour le jus de fruits, pommes, poires et pêches. C'est considéré comme bon. Fruits et légumes, 100%. Trop de calories et un peu trop de sucre. Généralement, quand il y a trop de rouge, ça signifie qu'il y a soit des additifs, soit trop de calories.
À l'instar de cette consommatrice, vous êtes nombreux à ne pas vous contenter des indications Nutri-Score sur les emballages pour faire vos courses. Yuka, quel produit ? Bayer note les applications qui notent les produits. On la cote, elles orientent les consommateurs, on le sait. Mais elles pourraient bien orienter aussi les fabricants, les industriels. Et c'est ce qu'on va voir avec vous, Virginie Garin. Bonjour.
Bonjour et bon appétit.
Merci. Oui, on ne mange pas encore, mais on va y penser. En utilisant ces applis, est-ce que le consommateur fait vraiment bouger les choses ?
Alors, clairement, oui. La moitié des Français déclarent qu'ils tiennent compte désormais du Nutri-Score. Donc, ça a une influence sur leur achat.
La moitié,
c'est énorme, selon une étude de Santé publique France qui a été réalisée il y a quelques mois. Et il y a au moins 6 millions de Français qui font leurs courses avec ces applications. Il y a 200 applications différentes qui sont disponible aujourd'hui. Donc vous êtes au rayon sauce tomate, Pascal, vous scannez le code barre et là vous obtenez une note. Par exemple, cette dame, on l'entendait, obtenait une note.
Qui était jeune d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que c'est très générationnel. J'ai l'impression que les jeunes sont plus addicts des applis que les plus âgés.
Oui, mais pas que. Visiblement, il y a aussi des personnes, des mères de famille par exemple, qui sont inquiètes pour savoir comment elles vont nourrir leurs enfants. Voilà, donc certaines sont gratuites comme Open Food Fact, d'autres sont payantes. Pour Yuka, c'est une
une quinzaine d'euros par an. Yuka, le plus utilisé, il accorde justement une note sur 100 qui prend en compte, alors il y a différents critères, le gras, le sel, le sucre, mais aussi si l'aliment a été ultra transformé ou s'il y a beaucoup d'additifs.
Alors, est-ce que les recettes changent ?
Eh bien oui, il y a aujourd'hui beaucoup d'industriels qui ont adapté leurs recettes. Leur but, c'est d'avoir la meilleure note. Alors, par exemple, on sait que le Nutri-Score, aujourd'hui, il apparaît sur à peu près la moitié des produits. Quand il est apparu en 2016, les industriels étaient très, très en colère. Ils ont essayé de freiner, etc. Bon, aujourd'hui, ils ont compris qu'il fallait s'y mettre, puisque c'est un label qui est désormais européen. On commence même à le voir dans les restaurants. Alors, c'est un label qui est contrôlé par l'Institut de recherche médicale. Donc il y a quand même des données sérieuses derrière. Et effectivement, ils changent leurs recettes. Alors, vous savez, le Nutri-Score, ce sont des lettres de A à E, hein, qui va du vert au rouge. Alors, je vous donne quelques exemples. Le gâteau savane de Papy Brossard. Bah, lui, il est passé récemment de D, il avait une très mauvaise note, D à C.
Ils ont
réduit la teneur en sucre, tout simplement.
Et par exemple, le Nutella ?
Le pardon ?
Le Nutella,
ah non,
ça
le
doit
Nutella,
être très rouge.
Ah non, le Nutella, il n'a pas changé de Nutri-Score. Alors,
ouais, j'imagine,
oui,
ça doit être très rouge, le Nutella.
Alors, on peut en parler justement. Maintenant, effectivement, il ne faut pas non plus que ça devienne une dictature, ces scores. Parce qu'un foie gras, c'est forcément gras. Un jambon cru, pour obtenir un jambon cru, il faut du sel. Donc forcément, ces aliments-là n'auront jamais un A ou un B. Ou alors, c'est inquiétant. Ça veut dire que vous avez du jambon avec du tofu, je ne sais quoi. Voilà, donc c'est vrai qu'il ne faut pas non plus regarder que ces Nutri-Score-là. Un autre exemple de changement de recette, quand même, au rayon céréales. Les céréales Nesquik sont passées de B à A. Et là, pareil, ils ont tenu à A, oui. Et ils ont obtenu, un score. Pardon ?
Ils ont mis des légumes ?
Non, ils ont enlevé du sel.
Mais des chips, j'imagine, c'est toujours
salé.
Rouge.
Oui, non, bah après, il faut diminuer la teneur en sel, et là, ça fonctionne.
Et est-ce qu'il y a des choses qui changent aussi pour l'empreinte écologique, pour l'emballage?
Alors, c'est en train, c'est plus long à mettre en route, mais il y a effectivement le gouvernement qui prépare, sans doute pour la fin d'année, un éco-score ou un score carbone qui tiendra compte de données environnementales, c'est-à-dire combien il a fallu émettre de CO2 pour fabriquer votre jambon,
donc
pour
là,
le transporter.
Donc là, ça sera un achat éthique.
Voilà, exactement, et ça pourra, pour les gens qui sont soucieux de leurs achats et de leur comportement d'achat, ça leur permettra de choisir.
Bon, il y a peut-être un risque à donner un tel pouvoir à des applications.
Ce qu'il faut, c'est que ces applications, ces notes, elles soient données par des institutions, peut-être d'État. Le Nutri-Score, je vous disais, c'est l'INSERM, l'Institut de Recherche Médicale. Après, il y a ce qu'on appelle NOVA. NOVA, lui, c'est un critère qui va vous dire si l'aliment il est ultra transformé, s'il y a beaucoup d'additifs. Bah, lui, il a été mis au point, c'est une méthode de calcul qui a été mise au point par un chercheur brésilien, qui est sans doute très sérieux, mais ce serait mieux que ce soit peut-être fait par nos propres chercheurs français. Donc, il faut faire attention. Effectivement, à savoir aussi que le Nutri-Score, il n'est pas complètement parfait, parce que vous me disiez tout à l'heure, vous étiez étonnée, Céline, par le fait que les céréales pouvaient avoir une note A. Parce que dans le Nutri-Score, il y a juste le sel, le sucre, le gras. Bon. Mais il n'y a pas la notion d'additif. Donc vous pouvez avoir des céréales qui ont une note A, mais il y a plein d'additifs dedans, c'est des produits ultra transformés. Voilà, donc,
et pas forcément très bon
en fait,
pour la santé.
Le mieux, c'est de se faire à manger soi-même. Le fait maison, c'est la meilleure façon de savoir ce qu'on mange.
Merci. Oui. Beaucoup, Virginie.
Ce qui demande un peu de temps, souvent.
Un peu plus de temps.
Et l'envie de cuisiner, Pascal, ça va. Et
c'est ce qui va ensemble, bien évidemment. Bah, d'ailleurs, je vais aller cuisiner, je vais vous laisser, parce qu'il est 12h30 jusqu'à 14h. En revanche, vous pouvez évidemment intervenir 32-10. Voilà un sujet. Est-ce que vous utilisez ces applications? Voilà un sujet pour les auditeurs. Dans un instant, évidemment, l'info revient avec le grand journal de 12h30.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL midi jusqu'à 13h. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous. Si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL midi, il est 12h31.
RTL midi, le 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro.
Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau.
Leur vie a basculé le 14 septembre 2017 lorsque leur car scolaire a été percuté par un TER au passage à niveau de Mias. Témoignage poignant des rescapés aujourd'hui au deuxième jour du procès de la conductrice. Faciliter la succession entre grands-parents et petits-enfants, c'est le projet du Conseil supérieur du notariat. On vous explique tout. Après l'affaire Quatennens, la NUP rattrapée par l'affaire Bayou chez Europe Écologie Les Verts cette fois. Fer de lance de la lutte contre les violences faites aux femmes, voilà
Nicolas Desparti, bien embarrassé. On y revient en longueur à 12h40 avec Olivier Bost, le chef du service politique. Et puis votre rendez-vous culture, LVT Midi, juste avant 13h. Aujourd'hui, les confidences de l'auteur français qui vend le plus de livres depuis 10 ans, Guillaume Musso, vous l'aurez reconnu, s'est confié à Bernard Lehu. La question du jour sur RTL.fr. À 2 mois du mondial au Qatar, êtes-vous inquiet pour l'équipe de France de football?
Et on pourra évoquer évidemment tous ces sujets à partir de 13h dans Les Auditeurs ont la parole. 32-10 pour dialoguer jusqu'à 14h30.
La météo à la fin du journal avec vous, Peggy Broche.
Plein soleil sur les deux tiers sud et plus nuageux au nord.
À tout à l'heure, Peggy, merci.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
Immense émotion ce matin au deuxième jour du procès de l'accident de Mias. Cette collision entre un car scolaire et un TER sur un passage à niveau le 14 décembre 2017. 6 collégiens avaient été tués, 17 autres grièvement blessés. La conductrice du car est la seule à comparaître dans ce dossier. Et aujourd'hui, ce sont les rescapés qui ont pris la parole, qui ont raconté cette journée qui a fait basculer leur vie, Patrick Tegero.
Le premier à s'exprimer, c'est Enzo. Il se souvient surtout qu'il faisait un tour de magie à Ophélia, sa voisine de banquette. On traverse la voie et j'entends le klaxon du train. Je tourne la tête, je vois le train arriver, je le dis à Ophélia et puis plus rien. Malgré les séances de psy, j'entends encore ce klaxon. Inès était assise à côté de Teddy, qui lui aussi est parti. Je me souviens que les pompiers mettaient des draps blancs sur certaines personnes. Pourquoi je suis là? Pourquoi eux non? L'avocat des parents de Teddy tente une question. Est-ce que Teddy s'est vu partir? A-t-il vu le train? Inès, doucement, affirme. Non. Quand je lui dis de regarder, il est resté sur son jeu, sur son téléphone, avec ses écouteurs. Alicia est d'une force extraordinaire. À l'hôpital, j'ai rassuré mes parents. On va m'amputer, mais il y a des prothèses. Son témoignage est accablant pour la conductrice. Elle a regardé un SMS et moi j'ai vu les feux, j'ai entendu la sonnerie et la barrière frotter contre le bus. La présidente rappelle le handicap, la souffrance permanente d'Alicia. Est-ce que vous en voulez à quelqu'un? Oui, j'en veux et j'en voudrais toute ma vie à Madame Oliveira. Pour moi, c'est sa faute. Nadine Oliveira, la conductrice, garde les yeux rivés au sol. Le silence est lourd.
Compte rendu d'audience signé Patrick Tegero pour RTL.
RTL Midi.
La politique à présent après l'affaire Quatennens, voici la NUPES, rattrapée par l'affaire Bayou.
Le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts pointé du doigt à son tour pour son comportement avec son ex-compagne. L'association féministe Nous Toutes s'en est saisie. Elle a interpellé via les réseaux sociaux Sandrine Rousseau qui a réagi à la télévision hier soir. Marie-Bénédicte Allaire, c'est donc un dossier en fait déjà connu chez Les Verts qui revient sur le devant de la scène médiatique.
Oui, effectivement, les écologistes savent depuis le mois de juillet que des accusations pèsent sur le numéro un du parti. C'est l'ex-compagne de Julia Bayou qui a saisi la commission contre les violences sexuelles et sexistes d'Europe Écologie. Lui assure qu'il n'y a eu ni violence ni comportement inapproprié. Il évoque de la rancœur et des menaces voilées venant de son ex dans un contexte de rupture. On en est là. La commission interne à Europe Écologie travaille de façon confidentielle. On ignore d'ailleurs qui sont ses membres, quand et à qui ils délivreront leurs conclusions. Hier soir, c'est parce qu'elle est interpellée en direct sur France 5 que Sandrine Rousseau brise le silence. Elle-même n'emploie pas le mot de violence, mais raconte avoir reçu une jeune femme éprouvée psychologiquement au point qu'elle a ensuite commis une tentative de suicide. Elle parle d'autres témoignages, mais ne donne aucune précision. Julien Bayou est serein, nous a confié l'une de ses collègues députés, serein, mais pour l'instant, il reste silencieux.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL. À l'occasion de la présentation du plan vélo tout à l'heure, la première ministre Elisabeth Borne est revenue sur l'autre affaire du moment, l'affaire Quatennens, et sur la réaction du leader insoumis Jean-Luc Mélenchon, qui, dans un premier tweet, avait assuré son lieutenant Adrien Quatennens de son soutien.
Oui, enfin, je ne sais pas si c'est tout à fait le lieu de traiter de ça. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Après, c'est évidemment extrêmement choquant d'avoir quelqu'un qui banalise des violences intrafamiliales. Enfin, voilà, c'est pas une outrance près, on va dire.
Elisabeth Borne avec Gauthier Delon-Bugard pour RTL. On reviendra en longueur sur ces deux affaires qui font l'actualité politique après ce journal. Nous serons avec le chef du service politique d'RTL, Olivier Bost. Et puis, un mot du plan vélo quand même. 250 millions d'euros y seront alloués en 2023. 200 dédiés aux infrastructures. 50 millions pour le stationnement.
Cette proposition à présent, et si les petits-enfants pouvaient hériter directement de leurs grands-parents.
En sautant donc un échelon dans l'ordre de succession pour permettre aux plus jeunes d'accéder par exemple à la propriété. C'est la proposition, Anaïs Bouissou, du Conseil supérieur du notariat.
Oui, c'est une proposition sur trois générations. Aujourd'hui, si l'un de vos parents décède, en général, à moins d'un testament, vous avez deux options. Soit vous acceptez l'héritage, soit vous refusez, mais vous refusez tout l'héritage. À l'avenir, si la proposition des notaires est retenue, ce sera plus souple. Je reprends mon exemple. Un parent très âgé décède, vous êtes censé hériter. Eh bien, vous pourrez choisir de n'hériter que d'une partie. Par exemple, vous récupérez la voiture et vous laissez la maison à vos propres enfants. Vous n'héritez que de cette partie-là. Ce serait pratique parce qu'en moyenne, on hérite de ses parents après 50 ans. Autant vous dire que c'est souvent plus utile à la génération d'après, aux petits-enfants de la personne décédée. Et dans le cas où vous n'auriez pas d'enfants, une part d'héritage pourrait être transmise aux frères et sœurs, aux neveux et nièces. Bref, être beaucoup mieux transmis d'une génération à l'autre. Le tout pour la même fiscalité, tout compris les frais de succession payés par les descendants resteraient les mêmes, que vous preniez tout ou que vous transmettiez une partie.
Explication signée Anaïs Bouissou, merci. Et puis, après les banquiers, les assureurs s'engagent pour le pouvoir d'achat des Français. Les primes d'assurance n'augmenteront pas au-delà de l'inflation.
Et ça, c'est un excellent sujet pour les auditeurs. Ce qui est important, bien sûr, de préciser, c'est que la génération qui doit hériter, c'est elle qui décide si elle ne veut pas prendre l'ensemble de l'héritage.
Exactement.
Bien évidemment.
Exactement.
Et qui préfère privilégier ses propres enfants. Nous sommes d'accord.
Les enfants des parents décédés choisissent s'ils transmettent une partie ou non à leurs enfants.
Ça, c'est très très important. C'est un excellent sujet pour nos auditeurs et ça pourra les faire, bien sûr, réagir. Surpoids, fatigue, essoufflement, les signes de l'insuffisance cardiaque restent trop méconnus.
4 à 700 000 personnes en seraient ainsi atteintes en France sans le savoir, sans être diagnostiquées. L'assurance maladie lance donc aujourd'hui une grande campagne de sensibilisation pour encourager les Français à aller consulter en cas de symptômes. La prise en charge de la maladie permet en effet d'améliorer nettement la qualité de vie. C'est ce qu'a constaté Jean Léonard, octogénaire insuffisant cardiaque depuis plus de 10 ans.
J'étais bouffi, je prenais du poids. C'était régulier sur 6 mois à peu près. Et plus ça allait, plus j'étais essoufflé. Effectivement, je ne faisais pas beaucoup attention. Je ne connaissais pas cette maladie. C'est quand j'ai commencé à avoir des œdèmes aux pieds que je suis allé voir mon médecin traitant. Je prends en tout 15 médicaments par jour. Une grande partie pour le cœur. Ce sont ces médicaments qui me permettent de rester en vie. Je fais 1 heure de marche tous les jours. Maintenant, j'arrive à marcher sur le plat sans être essoufflé.
Un témoignage recueilli pour RTL par Odile Pouget.
C'est la diva de la Russie, la chanteuse Alla Pugacheva, s'oppose frontalement à Vladimir Poutine.
Elle dénonce, oui, la politique de Moscou en Ukraine et sa voix porte dans tout le pays, Bénédicte Tassard.
Ah oui, 250 millions de disques vendus depuis les années 70, un passage à l'Eurovision, des concerts dans le monde entier et cette ritournelle bien connue des Russes. Vous connaissez ?
Non, mais je suis pas russe.
1 million de roses écarlates, son grand succès. Mais dimanche dernier, la chanteuse a publié sur son compte Instagram, suivi quand même par 3,5 millions d'abonnés, ouais, ce message. Je réclame le retour de la liberté d'expression, la fin de la mort de nos garçons pour des objectifs illusoires qui font de notre pays un paria. Alla Pugacheva, à 73 ans, elle demande aussi au ministère russe de la justice de la considérer comme un agent de l'étranger, un statut discriminant subi déjà par son époux, humoriste et vedette télévisée, qui s'est réfugié en Israël. Maxime Galkin a donné d'ailleurs plusieurs spectacles pour soutenir les réfugiés ukrainiens. Alla Pugacheva, elle, fait des allers-retours entre Moscou et Israël. On l'a vu récemment aux obsèques de Gorbatchev. Ce message est vraiment une très mauvaise nouvelle pour la popularité de Poutine.
Bénédicte Tassard.
Et elle prend des risques puisque, comme vous le disiez, elle vit régulièrement à Moscou.
Elle fait des allers-retours encore, oui, oui.
Merci beaucoup Bénédicte. La liste s'allonge encore pour Didier Deschamps. C'est maintenant le défenseur Lucas Digne qui rejoint l'infirmerie des Bleus, touché à la cheville. Il ne participera pas au match contre l'Autriche et le Danemark cette semaine. Il est remplacé par le jeune Rennais Adrien Truffert pour sa première sélection. Elle est sélectionnée régulièrement. On vous retrouve Peggy Broche pour la météo. Cet après-midi, une France coupée en deux.
Oui, c'est nuageux au nord de la Loire depuis ce matin d'ailleurs et ça va le rester cet après-midi, même si on peut avoir une ou deux éclaircies, mais vraiment les nuages seront assez encore nombreux. Ils peuvent même lâcher une petite averse du côté des Ardennes ou encore des collines normandes. Le ciel est légèrement voilé entre la Bretagne et la Vendée, mais là c'est lumineux. Puis partout ailleurs, c'est plein soleil, avec un peu de vent près de la Méditerranée et un peu de mistral. Quelques averses sur l'est de la Corse, mais vraiment pas grand chose. C'est du beau temps, le tout sous des températures quasi stationnaires. 16 à Langres, 17 à Rouen, ça reste frais au nord. 19 à Paris et Clermont-Ferrand, 21 à Rennes, 25 à Nîmes, 26 à Agen et Nice et 27 à Montauban et Ajaccio.
Merci Peggy.
Dans un instant, l'affaire Bayou, décryptage avec Olivier Bost.
RTL Midi, Céline Landreau et Pascal Pro. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
Au moment où j'ai reçu cette femme, elle était dans un état très très mal. D'ailleurs, elle a fait une tentative de suicide quelques semaines après, tellement elle allait mal.
Julien Bayou qui devra renoncer peut-être à ses fonctions au sein de votre parti.
On verra, step by step.
Sandrine Rousseau qui revenait hier soir sur C'est à vous, sur France 5. Sur ces accusations visant Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, dans le même temps, les Insoumis sont embarrassés par l'affaire Quatennens, le député du Nord, qui a reconnu des violences conjugales. Deux formations qui se veulent en pointe sur la question des violences faites aux femmes, rattrapées donc par leur cause. Pour en parler avec nous, Olivier Bost, chef du service politique d'RTL, bonjour.
Bonjour.
D'abord, en préambule, on rappelle que ce sont quand même deux affaires très différentes.
Oui, c'est important d'être précis sur ces affaires-là pour ne pas avoir une impression d'avoir que des agresseurs et des violeurs et de mettre tout ça quelque part dans un même sac. Dans le cas d'Adria Quatennens, il y a des violences contre sa compagne qui sont reconnu, ça c'est important de le dire. Adria Quatennens admet donc avoir mis une gifle à son ex-compagne dans le cadre d'un divorce. Il reconnaît aussi de l'avoir privé de son téléphone portable. Il s'agit pour l'instant aussi de sa version, et uniquement de sa version, corroborée par son avocate ce matin qui a pris la parole et qui maintenant dit que l'enquête dira exactement de quoi il s'agit. Mais c'est donc l'histoire d'un homme violent contre sa compagne dans le cadre d'un divorce. Pour le cas de Julien Bayou, c'est pour l'instant, je ne vais pas dire plus compliqué, mais moins net. On a entendu Sandrine Rousseau à l'instant, dans les mots qu'elle emploie, elle ne parle pas de violence, que ça soit de violence physique ou de violence sexuelle.
Ça peut être une violence morale.
Voilà, d'une violence morale. Et on va sur
d'emprise qui peut exister parfois dans le rapport entre deux individus.
Tout à fait. Et si c'est important de qualifier les choses, c'est parce qu'il y a un moment ou un autre, il faut pouvoir aussi les qualifier pénalement. Et on a vu dans un certain nombre d'affaires qu'on a eues avec des hommes politiques jusque-là, que parfois, au moment où il faut arriver à quelque chose de plus précis, pour qualifier pénalement les choses. Et c'est pour ça que le cas de Julien Bayou est plus compliqué. En revanche, il y a des points communs dans les deux affaires. Il s'agit de deux hommes de gauche.
D'hommes qui ont pris des positions très claires sur la violence faite aux femmes.
Voilà, et globalement leur organisation. Et que l'un est responsable d'Europe Écologie Les Verts et que l'autre était, de manière pas officielle mais officieuse, le numéro 2 et le numéro 2 de la France Insoumise, et effectivement le dauphin de Jean-Luc Mélenchon. C'est donc deux hommes qui avaient de fortes responsabilités dans leurs organisations.
L'autre point commun, c'est l'embarras dans les deux formations.
Oui. Alors, pour deux raisons. D'abord, parce qu'effectivement, vous le disiez, Pascal, l'un et l'autre de leur formation, l'une et l'autre de leur formation, portent cette question de l'égalité homme-femme, de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et une part de morale aussi. Il y a une part à gauche, la morale est quelque chose d'extrêmement important et ça vient dans tout ça. Finalement, quelque part, c'est les plus moralistes qui se voudraient les plus vertueux et finalement qui ont en interne le plus d'affaires. Et puis la deuxième raison de leur embarras, pour aller très vite, c'est ce que ça révèle aussi de leur fonctionnement interne. Dans les deux cas, on découvre qu'il y a des comités assez obscurs qui s'occupent de ces questions-là et qui finalement, dans un fonctionnement, surtout pour la France insoumise, est un fonctionnement très stalinien où certains cas sont traités de manière...
Comme vous y allez.
On voit bien, en fonction de la proximité avec Jean-Luc Mélenchon, le sort des uns ou des autres, le traitement réservé n'est pas le même. Et puis, pour Jean-Luc Mélenchon, on voit aussi qu'il a une difficulté avec ces questions-là, puisqu'il défend systématiquement ses proches, et il défend systématiquement les hommes.
Alors, vous disiez embarras notable, c'est intéressant de voir que Clémentine Autain appelle la France insoumise à ne pas perdre le fil de ses engagements fondamentaux et prend un peu de distance avec Jean-Luc Mélenchon et c'est une femme. Et de la même manière hier, c'était Sandrine Rousseau qui prenait un peu de distance avec Julien Bayou et c'était encore une femme.
Ah, je pense qu'on n'est qu'au début. Et que notamment, en particulier, la réaction première de Jean-Luc Mélenchon, qui était encore une fois la défense des hommes et aucun...
Avec un deuxième tweet quand même qui a changé le premier.
Oui, mais enfin le premier est terrible.
Oui, je suis d'accord.
Et absolument pas effacé par le second, à mes yeux.
Nous sommes d'accord aussi.
Je pense que c'est vraiment que le début, le tout début, parce que à l'intérieur de la France insoumise, que ça soit à travers des propos publics ou des propos en off... Et également chez les écologistes, tout ça va vraiment bousculer la gauche. On est vraiment qu'au tout début de l'histoire.
Et on parle aujourd'hui de la gauche. On rappelle qu'il y a eu aussi des affaires, évidemment, dans d'autres formations politiques. On ne va pas tout lisser, mais...
Personne n'est exemplaire. Et on a eu effectivement d'autres situations dans la majorité actuelle, avec notamment un député harceleur en Gironde contre sa femme. Et la majorité n'est pas arrivée à lever son immunité parlementaire. On a eu le cas de ministre aussi, avec Damien Abad, où il a fallu quand même un changement de Premier ministre et de gouvernement pour qu'il quitte le gouvernement. Personne n'est exemplaire, vraiment personne.
Merci Olivier Bosse. Dans un instant, laissez-vous tenter midi avec les confidences de l'auteur français qui vend le plus de livres depuis 10 ans. Vous l'avez peut-être lu, Guillaume Musso, Olivier ?
Non.
Oui, vous allez le lire sans doute cet après-midi. Et Céline Landreau.
Ça m'est arrivé, oui, Pascal.
Bernard le
lu. Heureusement, Bernard
a lu. 20 millions, vous vous rendez compte ? À tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL. Laissez-vous tenter midi.
Et la culture qui se met à table tous les jours dans RTL Midi. Aujourd'hui, on parle littérature. Est-ce que Guillaume Musso, c'est de la littérature ? Je suis un peu provocant.
Oh ben, bien sûr, ça. Et puis, alors, c'est une injure que vous faites à toutes celles et ceux qui le lisent, mon cher Pascal.
Bonjour Bernard, en tout cas.
Bonjour.
Mais non, mais je le dis volontairement parce qu'il n'a jamais eu un prix. Il n'a jamais eu le prix Goncourt, il n'a jamais eu le prix Interallié, il n'a jamais eu un prix de littérature.
De toute façon, il n'en a absolument pas besoin, vu
ses chiffres. Mais est-ce que c'est de la littérature ? La question est bonne.
C'est de la littérature populaire, mon cher Pascal Pro. Voilà.
Si populaire que ce 20e roman...
C'était pas mon avis que je donnais, bien évidemment. Je vous en prie, Céline.
Oh, mais non, mais vous êtes le bienvenu, Pascal. Si populaire, on le disait, Guillaume Musso, que ce 20e roman Angélique aux éditions Calmann-Lévy, riche de continuer à en faire l'auteur le plus lu en France depuis plus d'une décennie, Bernard.
Oui, ça fait 11 ans que ça dure.
11 ans qu'il est l'auteur français le plus lu. Au dos de ce nouveau livre, il y a cette citation d'Alfred Hitchcock. « Chacun n'a-t-il pas au moins une fois dans sa vie souhaité tuer quelqu'un ?» Bon, ça vous pose une entrée en matière, elle tient ses promesses.
Oui, ça vous est arrivé à vous ?
Honnêtement, je ne crois pas, mais je peux me tromper.
En tout cas, ce que je peux vous dire, moi, c'est que les fans vont adorer Guillaume Musso. Alors lui-même, vous le savez peut-être, grand lecteur, s'inspire ici de Monsieur Ripley, célèbre roman de l'américaine Patricia Highsmith, adapté au cinéma par René Clément, dans Plein Soleil, avec Alain Delon. Personne ne réagit.
C'est
une diabolique histoire d'usurpation. Vous en souvenez peut-être, usurpation d'identité.
Avec Marie Laforêt.
Exactement. Alors Musso donne une version féminine, et ça, Madame Ripley, c'est Angélique, une séduisante infirmière qui cache bien son jeu, mais les personnages qui l'entourent sont tout aussi troubles et troublants, et tous mus par un sentiment dévastateur, Guillaume Musso.
Et oui, c'est l'amertume, le ressentiment, ce qu'on peut éprouver quand on pense qu'on ne vit pas la vie à laquelle on aspire, et nul n'est épargné d'ailleurs par ça, de ressentir ça, c'est cette amertume. Et d'un point de vue dramatique, c'est intéressant parce que à partir du moment où ces personnages vont vouloir sortir de leur rail, ça leur fait forcément transgresser quantité de normes, de valeurs. Et pour un auteur, c'est très intéressant.
Eh oui, la transgression. Et ce qui rend la lecture d'Angélique, le nouveau Guillaume Musso, particulièrement addictive, c'est aussi ici une construction originale que l'écrivain utilise pour la première fois.
Ici, il y avait l'envie de se mettre des contraintes, vous savez, de faire un petit peu comme dans un épisode de Colombo avec une ironie dramatique très forte. L'ironie dramatique, c'est quand le spectateur, ou ici le lecteur, a davantage d'informations que les personnages. Et ce qui est compliqué, c'est d'arriver à maintenir quand même un suspense d'enfer alors que vous avez cette contrainte-là. Et j'ai toujours pensé que les contraintes étaient vectrices comme ça de créativité.
Donc on connaît l'assassin, donc effectivement c'est Columbo.
Comme dans un bon Columbo, oui, exactement. Et pourtant, le suspense dure jusqu'au bout des 300 pages d'Angélique, car la vérité ici d'un chapitre n'est jamais celle du suivant.
Alors, on l'a dit, Bernard, Angélique, c'est le 20e roman de Guillaume Musso. C'est l'occasion de revenir sur l'exceptionnelle longévité du succès de cette auteur, l'auteur préféré des Français.
Oui, d'autant plus remarquable hein, qu'il publie au rythme d'un livre par an.
C'est énorme.
Et ce depuis 21 ans. Alors, où trouve-t-il, c'est ce qu'on, je me demande toujours, l'énergie d'écrire à ce rythme sans se lasser et sans perdre l'inspiration.
On se demande toujours, mais comment on a fait pour finalement tout boucler en 300 ou 400 pages ? C'est la magie de l'écriture. C'est pour ça aussi que j'y reviens d'année en année, alors que chaque année je me dis, ah là, je vais faire une pause, je vais... Mais non, il y a cette envie-là, cette addiction-là, et c'est tellement gratifiant, voilà, une fois que le roman sort et que vous avez les gens qui vous renvoient ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont aimé, pas aimé. C'est véritablement, voilà, ce que disait Pérec, la littérature est un jeu qui se joue à deux.
Eh oui, c'est beau ça, hein, un jeu à deux pour la littérature.
Bon, il travaille un peu, c'est des horaires de bureau, il arrive à 9h chez lui, il repart à 19h le soir, et il a écrit, il a dit quelque chose d'assez joli, il a dit « écrire, c'est réécrire ».
Oui, et ça c'est vraiment, il passe énormément de temps à reprendre, à retravailler son texte. Alors au fil de ses 20 romans, 21 ans de carrière, Guillaume Musso bien sûr a accumulé tout un tas de souvenirs. Je lui ai demandé quels étaient pour lui les plus marquants.
C'est toujours les rencontres avec les lecteurs. Moi j'occupe aujourd'hui la place que je rêvais d'occuper quand j'avais 15 ans. Quand j'avais 15 ans, je lisais Marcel Pagnol, je lisais Barjavel, je lisais Stephen King, et mon rêve c'était arriver un jour à faire en sorte que je puisse écrire aussi et qu'il y ait des gens qui attendent la parution de mes livres. Et c'est très gratifiant quand vous êtes un moment de votre vie où vous êtes parvenu à faire ce que vous rêviez quand vous étiez ado.
Voilà, à 48 ans, Guillaume Musso a donc réalisé ses rêves d'ado. Angélique, son nouveau roman, sort aux éditions Calmann-Lévy.
Et merci, vous pourrez beaucoup réagir. Merci Bernard, vous pourrez
si
réagir.
Vous êtes de grands lecteurs de Guillaume Musso comme vous, Pascal.
Bien sûr, mais c'est intéressant.
Pascal va y venir.
Mais je suis persuadé que ce serait passionnant, bien évidemment. Mais je vais surtout interroger les auditeurs et ce qu'ils ont envie. Et je vous avais demandé d'ailleurs, Bernard, un jour de venir avec Guillaume Musso, qu'il puisse échanger, pourquoi pas, avec les auditeurs. Oui, je trouve que ça serait intéressant.
On l'avait fait il y a 2 ou 3 ans dans Laissez-vous tenter le matin, ça avait été passionnant.
Eh ben, bien évidemment, et si, puisqu'il aime les lecteurs, nous dit-il, eh bien, ce serait bien qu'il vienne entre 13h et 14h30. 12h58, à tout de suite. RTL Midi.